Bonjour à tout le monde, bonjour pour cette fin d'année. Nous allons avoir un culte qui sera un petit peu pas habituel. Du fait que nous avons deux orateurs qui vont jouer, puisque nous n'avons pas de musiciens, à part les deux là. Ils sont tous partis en camp, et nous allons penser à eux aussi. Ce matin, nous avons reçu un petit message de Philippe qui nous souhaitait un bon culte. Eux, ils sont dans la neige, avec beaucoup de neige même. Ils n'ont pas pu faire de ski les premiers jours, parce qu'il y avait trop. Mais je pense que maintenant, ils vont pouvoir en faire un peu, peut-être même du ski nautique, avec toute la neige et toute la pluie. Nous voulons quand même remercier, en cette fin d'année, tous les techniciens, les musiciens, les moniteurs, toutes les personnes qui œuvrent au bon fonctionnement de cette communauté. Nous sommes en fin d'année 2017. Nous voulons remercier le Seigneur pour sa présence et sa protection pendant cette année passée. Pour l'année à venir, puisqu'il nous reste 14 heures, avant de nous souhaiter bonne année, nous voulons souhaiter la protection pour l'année qui vient, compte tenu que les informations, que ce soit dans le journal, à la télévision, à la radio, elles sont vraiment pas bonnes. Et pourtant, nous voulons faire connaître au monde, à ceux qui nous entourent, la paix du Seigneur. Et là, j'aimerais vous donner deux petits versets. Dans 1 Corinthiens 16, 13 à 14, veuillez tenir ferme dans la foi. Soyez hommes, affermissez-vous, que toute chose parmi vous se fasse dans l'amour. Et puis, dans Philippiens, les chrétiens 4:4, réjouissez-vous. Toujours dans le Seigneur, encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Que ce soit un leitmotiv pour l'année qui vient, afin que, autour de nous, ils voient que nous qui avons le Seigneur, on est tranquille, on est dans la paix, malgré tout ce qui se passe. Et Dieu sait s'il y en a. Nous allons invoquer le Seigneur. Oui, Papa divin, merci en Jésus-Christ. Nous venons de fêter ton anniversaire et nous voulons continuer avec cette capacité d'être dans la paix pour que tous ceux qui nous entourent soient vraiment bénis, que nous puissions continuer dans cette année qui est devant nous, que nous mettons sous ta protection, affirmer que tu es le Seigneur, notre Père, notre frère en Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous allons continuer avec nos deux musiciens. Les chants 427 et 554. Voilà, et je voulais vous faire une petite surprise. Nous avons quelqu'un qui nous vient de Hollande, un Hollandais, par exemple. Et c'est lui qui va aussi nous aider pour ce culte.
Voilà, cette année... elle a été marquée par la réforme. La réforme, c'est à la base la redécouverte de la grâce la découverte d'un Dieu de bienveillance. Alors on pensait qu'on pourrait avoir un petit moment de partage et vous pourriez aussi proposer des chants, un petit moment de partage orienté sur la louange pour ce que nous avons pu vivre cette année. Mais il y a peut-être aussi des temps de souffrance. Voilà, alors la parole est un peu à vous et si vous vous proposez quelques chants, c'est tout à fait ouvert. Et il y aura un deuxième temps de partage qui sera présidé par Olivier et introduit par quelque chose qu'il partagera dans la deuxième partie du culte. Voilà, alors qui... Tu proposes un chant, d'accord.
Oui, un des musiciens va commencer à utiliser sa voix et non plus ses doigts pour vous apporter un message.
Oui, c'est vrai, on remercie Dieu pour cette année écoulée. On est à la fin d'une année, puis on s'interroge quand même, on se pose toutes sortes de questions. Là, vous n'avez pas beaucoup partagé de choses, vous avez eu envie de proposer des chants. C'est très bien, ce n'est pas souvent qu'on peut proposer des chants. C'est important de se tourner vers Dieu pour le louer, mais aussi pour écouter, pour s'imprégner de ce que sa bienveillance nous dit. C'est un petit peu ça que j'aimerais parcourir à travers le thème du jour. Alors, on a passé une année, on s'interroge des fois, voilà, il y a des choses qu'on a accomplies, qu'on a pu réaliser. Il y a ce qu'on avait pensé faire, espéré faire, promis, prévu, et puis qu'on n'a pas fait. Je pense que je pourrais faire une bonne liste. Il y a ce qu'on avait espéré qui ne s'est pas réalisé, ou même des malheurs, ou la mort qui a frappé. Et durant cette année, nos réussites, nos échecs, il y a tout ça qui est dans cette année. Et puis, à travers de ça, comme on l'a chanté, on perçoit la grâce de Dieu malgré tout. Et puis, il y a aussi parfois de l'inattendu. Moi, j'ai vécu beaucoup d'inattendu quand j'ai fait un petit séjour au Laos qui devait durer 5 semaines et qui s'est prolongé de 2 semaines. Beaucoup d'inattendu, beaucoup de contrastes. Beaucoup de joie de voir voir toutes sortes de nouveautés qui se développent, qui sont extrêmement passionnantes, et puis en même temps de tomber de manière inattendue sur des difficultés humaines qu'on essaye de résoudre, on essaye d'écouter. Voilà. Puis avec le temps qui s'écoule, on prend aussi conscience du temps qui nous reste, qui se raccourcit. Puis on se demande parfois ce qui reste de ce qu'on a pu faire, dire, accomplir. Tout le monde se pose ce genre de questions. Les grands hommes se demandent comment on va se souvenir d'eux. J'écoutais juste un interview de Jean d'Ormesson, qui était peu avant, je pense, sa disparition. Puis il disait d'ailleurs, oui, les gens nous oublieront, voilà. Mais il a dit une petite chose que je trouvais un peu piquante. Il a dit « J'échangerai volontiers 300 lecteurs dans 50 ans contre 300 000 l'année prochaine. » Voilà, cette idée que quelque chose reste à plus long terme, qui nous habite quelque part. Alors avec ça, dans la Bible, sur ce qui reste, il y a quelque chose, il y a beaucoup de textes qui parlent des récompenses. C'est ça qui m'a un peu intrigué. Qui parle d'une récompense dans une vie future, pour le dire comme ça. Et puis, j'ai pensé à un texte qui évoque justement cette question de ce qui reste, ou de ce qui reste peut-être pas, de ce qu'on a fait. C'est un texte qui est dans 1 Corinthiens, que je vous le lis. Le contexte, c'est Paul qui parle de son ministère dans cette église et puis des autres gens qui ont aussi fait des choses après lui. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Dieu accordera à chacun sa récompense selon son propre travail. Car nous sommes des collaborateurs de Dieu et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes aussi l'édifice de Dieu. Selon le don que Dieu m'a accordé, j'ai travaillé comme un bon entrepreneur et posé les fondations. Maintenant, un autre bâtit dessus. Mais il faut que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, car les fondations sont déjà en place dans la personne de Jésus-Christ et nul ne peut en poser d'autres. Certains utiliseront de l'or, de l'argent, des pierres précieuses pour bâtir sur ces fondations. D'autres utiliseront du bois, du foin ou de la paille. Mais la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée au jour du jugement. En effet, ce jour se manifestera par le feu, et le feu éprouvera l'ouvrage de chacun pour montrer ce qu'il vaut. Si quelqu'un a édifié un ouvrage qui résiste au feu, il recevra une récompense. Par contre, si l'ouvrage est brûlé, son auteur perdra la récompense. Cependant, lui-même sera sauvé, mais comme s'il avait passé à travers les flammes d'un incendie. Alors, je ne vais pas vraiment commenter en détail ce texte, qui est justement lié au ministère de Paul, mais je pense à d'autres textes. Il y a pas mal de textes bibliques qui parlent des récompenses. Alors, il y en a un certain nombre qui mettent en parallèle des récompenses positives ou négatives, ou des récompenses et des punitions, ou des voilà. Et puis, il y a certains textes, comme par exemple le psaume 1, qui propose une vision assez simple. Hein. Si vous êtes fidèle à Dieu, vous serez heureux, et réciproquement, bon voilà, si vous n'êtes pas fidèle, le malheur va vous tomber dessus. C'est intéressant, ces textes qui ont un peu cette orientation-là, il y en a plein dans la Bible, parce que ça ressemble beaucoup à beaucoup de choses qu'on pense couramment, puis ça ressemble aussi beaucoup à la manière de penser bouddhiste qui est très présente au Laos et en Thaïlande. Et eux, ils disent ça avec une phrase extrêmement courte, c'est impossible de la dire aussi courte. En laotien, ça prend 8 syllabes. Het di dai di, het sua dai sua. Alors, si j'essaye de le traduire, il me faut nettement plus de syllabes. Le plus court que je peux faire, agis bien, tu récolteras le bien. Agis mal, tu récolteras le mal. C'est l'idée du karma. Mais c'est très répandu chez nous aussi. Et des fois, même chez les chrétiens, c'est une petite pensée qu'on a. Et puis, avec derrière cette idée, il y a aussi l'idée, ben, peut-être que si on a du malheur, c'est qu'on paye pour quelque chose. Puis si ce n'est pas dans cette vie, c'est dans une vie passée. C'est intéressant parce qu'il y avait un reportage TV cette semaine, il montrait une association en Thaïlande qui s'occupe des aveugles, d'enfants aveugles, qui essaye de leur donner une chance, leur donner une éducation, etc. Et puis ils expliquaient qu'ils luttaient contre le préjugé que si les gens sont handicapés, c'est qu'ils payent pour quelque chose. Vous vous souvenez que les disciples de Jésus, ils avaient la même réaction hein, quand ils ont vu un aveugle. Et ce préjugé fait que souvent, ces enfants handicapés sont rejetés par leur famille. Donc j'évoque cette idée parce que finalement elle est bouddhiste, mais elle est beaucoup plus répandue que ça. Puis elle est aussi présente dans la Bible, c'est ça qui est intéressant. Mais dans la Bible, il y a aussi toutes sortes de textes qui luttent contre ce préjugé-là. Vous avez en particulier le livre de Job qui prend 40 chapitres pour se battre contre ce préjugé-là. Et bien sûr, en fin de compte, la révélation de la grâce... On a dit que la réforme, c'est la redécouverte de la grâce. C'est justement cette grâce au cœur de l'Évangile qui est le cœur du message de Jésus. Alors, si on regarde comment on vit tous les jours, dans la vie sociale, on a une bonne partie de nos échanges qui sont basés sur la réciprocité. Je donne l'affection à quelqu'un, j'en reçois en retour. Je rends des services, j'en reçois en retour. Il n'y a pas de mal à ça. Hein. C'est une espèce de base biologique naturelle de la vie sociale. Puis si on regarde la vie professionnelle, l'orientation assez générale aujourd'hui, ce me semble, c'est que les objectifs, souvent des objectifs de croissance, qui est d'ailleurs très problématique et dangereux, en partie. Et puis, il faut réaliser ses objectifs. Et puis, vous allez être jugé dans la manière dont vous avez réalisé vos objectifs. Je suppose que pas mal d'entre vous vivent ça dans le boulot. Puis même dans le domaine de l'aide au développement, où on essaye de travailler avec un esprit non marchand, si vous voulez, mais quand même, maintenant, l'orientation générale, c'est de dire qu'il faut fixer des objectifs, il faut fixer des indicateurs, il faut mesurer ce que vous avez réussi en fonction de ces indicateurs, tel pourcentage de, voilà, de gens qui ont atteint un certain niveau d'éducation ou tel pourcentage des infirmières qui ont compris que, voilà. Alors, tout ça a son utilité, mais peut-être qu'on passe à côté de l'essentiel. Quand on aide les gens, c'est peut-être pas ce qu'on peut mesurer et dire dans les rapports qui est le plus important, mais c'est des choses qui ont passé à travers les relations humaines et qui ne peuvent pas se mesurer. Alors, je crois que Jésus, face à ça, il nous invite vraiment à une autre perspective. Et j'aimerais juste lire ce petit texte, il y en a beaucoup, mais de Luc 6, c'est une partie du sermon sur la montagne. « Si vous prêtez à ceux qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Les pêcheurs aussi prêtent aux pêcheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut car il est bon pour les ingrats et les méchants. » Et dans le texte parallèle de Matthieu que je n'ai pas pris, il dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Alors, j'ai trouvé intéressant, si on lit juste le milieu de la phrase dans Luc, là, il y a « Prêtez sans rien espérer et votre récompense sera grande. » Il déconnecte complètement la récompense de la recherche d'un résultat, quelque part. Et quand dans Matthieu, il dit « Soyez parfaits », c'est quoi ? C'est pas la perfection morale. C'est d'entrer, de dépasser ce niveau naturel des échanges où on, voilà, où on donne parce qu'on reçoit, et réciproquement, de dépasser ce niveau-là, les païens en font autant, dit Jésus, pour entrer dans le monde de la grâce et de la gratuité que Jésus incarne dans toute sa vie et dans tout son enseignement, et c'est le visage de Dieu que Jésus nous révèle. Alors finalement, cette récompense que Dieu promet, c'est un peu comme le bonheur. Ça vient quand on ne le cherche pas. Et cette récompense, c'est encore une pure grâce. Ce n'est pas quelque chose qui se calcule. Et peut-être que ce qui reste, ce n'est pas les choses visibles qu'on a fait, mais c'est ces petites choses qu'on a données, parfois sans le savoir, tout au long de l'année. Et vous avez sans doute la plupart en tête le récit où Jésus raconte un petit peu une histoire pour mettre en scène le jugement dernier. C'est dans le chapitre 25 de Matthieu. Où Dieu sépare les brebis et les brebouques, comme disait je ne sais plus qui. Voilà. Il dit ceci, là j'ai juste dans le, où est-ce que je l'ai mis. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir ?» assoiffé et te donner à boire, quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir nu et de te vêtir, quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir à toi ? Et le roi leur répondra, en vérité je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors ces gens, ils n'ont pas du tout cherché de récompense, ils n'ont même pas su. C'est tellement naturel. Ça veut dire que les gestes les plus simples du quotidien, ils ont une portée éternelle. Ils ont une portée devant Dieu. Et pas à cause d'une espèce de karma mécanique hein, qui fait que mes bons actes font des bons effets, etc. Mais parce qu'ils sont justement, de notre côté, l'expression naturelle de notre confiance en Dieu, de notre manière de vivre dans l'esprit de Jésus. Et puis c'est une grâce qui découle de cette confiance en Dieu. Alors si on revient au texte, construire avec de l'or, je ne crois pas que ça veut dire faire des grandes choses bien visibles et retentissantes. Ça veut dire être fondé sur Jésus-Christ. Puis être fondé sur Jésus-Christ, ben, c'est d'être inspiré par cette révélation de la grâce qui est tout entière basée sur la bienveillance de Dieu. Alors peut-être que cette année, hein, vous avez fait un sourire, écouté quelqu'un, un coup de main, et vous ne savez même pas la portée que ça a. Vous ne savez même pas, peut-être ça a permis à cette personne de se relever, de continuer sa route. Ou peut-être une simple tâche ingrate que vous avez faite presque tous les jours. Mais voilà, ça c'est... C'est peut-être ça qui a le plus de valeur devant Dieu. J'entendais une interview de Rosette Poletti, je suppose que vous voyez qui c'est, hein, c'est qui disait tout récemment, là, elle parlait de la dimension verticale, la spiritualité, hein, auquel elle accorde toute son importance, mais elle disait qu'elle ne peut se réaliser que dans les relations horizontales, c'est-à-dire le quotidien, nos relations humaines. Alors on est rassemblés dans un culte devant Dieu, on a loué Dieu. Alors, est-ce que Dieu a besoin de nos louanges? Honnêtement, je ne sais pas trop. Mais ce dont je suis sûr, c'est que nous, on a besoin de nous imprégner de cette grâce bienveillante et besoin qu'elle imprègne notre quotidien. Alors, pour conclure, je lirai juste encore un verset qui pourrait être notre mot d'ordre pour l'année qui vient. C'est donc Colossiens au chapitre 3, où Paul dit « Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Rappelez-vous que le Seigneur vous récompensera, vous recevrez les biens qu'il réserve aux siens, car le véritable maître que vous servez, c'est le Christ. » Alors, j'avais prévu encore un chant avant de passer la parole à Olivier, mais je demande au président si le temps n'est pas trop avancé.
On peut laisser l'autre prédicateur.
D'accord.
Bon, en préparant ce... Bonjour tout le monde. En préparant ce culte avec Sylvain, il m'avait demandé qu'est-ce qui me venait à l'esprit avec le thème, qu'est-ce qui est essentiel. Et puis, je vais partager quelque chose. Il m'a dit, ah, ce serait bien de le partager au culte. Donc, quand on pense à nouvelle année, c'est aussi une période de transition, c'est une période de changement. Donc, il y a l'ancien, puis il y a le nouveau. Et on réfléchit un petit peu. Donc, il y a la partie où on réfléchit à ce qui s'est passé, on est reconnaissant pour ce qui s'est passé, ou bien on est un petit peu, parfois un petit peu honteux parfois par rapport à ce qui s'est passé, ça dépend des années. Et on réfléchit aussi, souvent, on dit on fixe des résolutions pour la nouvelle année, on fixe des objectifs. Mais il y a une chose qui me semble qui est importante, c'est que ce soit pour les changements dans nos vies ou même en dehors de nos vies, les plus grands changements, les plus grandes transitions ne viennent pas tellement des objectifs que l'on se fixe. Les plus grands changements, les plus grandes transitions, ils viennent de notre réponse à l'objectif qui est fixé par Dieu. Ça veut dire que Dieu dit quelque chose et le fait de suivre ce qu'il dit va amener un changement qui ira bien plus loin que ce que nous on peut faire par nos propres moyens. Dans ce que l'on entend au culte, dans ce que l'on entend ou dans ce que l'on chante, il y a un apport qui nous reste, il y a quelque chose qui nous reste et qui peut nous servir plus tard. Et j'aimerais vous partager un exemple précis. Il y a des chants que l'on chante ici, comme par exemple « Tournez les yeux vers le Seigneur » et « Rayonnez de joie ». Et c'est quelque chose qui était resté dans ma tête, enfin qu'on chante depuis, c'est un vieux chant qu'on chante depuis quelques années à l'église. Et il y a quelques années, j'étais relativement lourd et chargé, disons, j'étais pas d'humeur heureuse et joyeuse. Et pour une raison qui m'échappe, tout à coup, il y a Dieu qui a mis ce chant dans mon esprit. Et puis quand on dit, bon, tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie, si vous n'êtes pas heureux, ça paraît très abstrait, ça paraît un peu fou, disons, on se dit, c'est pas possible. Et c'est un défi, je dirais, à ce moment-là, de porter crédit à ce que Dieu dit et dire, d'accord, je vais tourner mes regards vers le Seigneur et rayonner de joie. Je ne sais pas du tout comment ça se passe, comment ça se fait, mais je dirais que c'est une expérience qui est formatrice, et c'est une grâce de Dieu pour cette expérience de dire, voilà, c'est quelque chose qui est essentiel. Il y a des chants, par exemple, qui disent « Jésus-Christ est tout ce dont j'ai besoin ». En anglais, c'est un chant, c'est « Christ is enough ». Je ne sais pas si vous connaissez. Et c'est quelque chose qu'on découvre, donc petit à petit, en réponse à ce que Dieu nous dit. Et donc, quand Dieu nous dit au travers du chant « Tournez les yeux vers le tournez vos yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie », c'est quelque chose qui semble abstrait au début, qui semble assez étranger, mais qu'on découvre petit à petit, qu'on vit très fortement une fois, et après qui reste comme expérience de notre vie, et qu'on se dit, ça c'est quelque chose que à nouveau j'aimerais poursuivre, que j'aimerais aller de l'avant dans cette direction. Donc là, je vous invite à chanter « Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie ». 316, je crois. Alors, pour revenir à cette question de transition, durant mon enfance, il y a une chose que j'avais expérimentée avec cette question de résolution, c'est qu'on commence une nouvelle année avec des résolutions, on dit voilà, on sera gentil à l'école et autres. Et en pratique, ce que j'avais remarqué assez rapidement, c'est que ça tenait bien bon quelques mois, et au bout de quelques mois, très rapidement, on reprenait les travers. À la fin de ces quelques mois, j'étais surpris, je me disais, mais attends, c'est pas possible, comment ça se fait? J'avais pris cette résolution, comment ça se fait que je n'ai pas été capable de la tenir? Et donc, ça arrivait quelques années, et au final, suite à d'autres choses, c'est quelque chose pour lequel j'avais prié. Et après, sans effort particulier, après quelques années, j'ai pu constater qu'effectivement, il y avait eu un changement. Donc, il y avait le avant, j'étais quelqu'un. Et puis, il y avait une résolution un peu par là-bas au début. Donc, j'étais enfant, je me disais, il faudrait que je sois gentil à l'école avec mes camarades et autres. Et d'une certaine manière, par rapport à cet objectif, on avance, on fait quelques efforts pour y atteindre, mais on n'y arrive pas. Et ça, c'est quelque chose qui est frustrant. Après, ce que je dirais, c'est que la différence, c'est qu'en priant pour ceci, après quelques années, je me suis retrouvé de l'autre côté, sans avoir particulièrement fait un effort, et en me disant, mais il y a comme un fossé, il y a quelque chose qui s'est passé, je ne suis plus au même endroit, et ce n'est pas quelque chose qui est instable, ou tout à coup, s'il y a quelque chose qui se passe mal, je retrouve mes mauvais travers, deviens colérique et autres. Donc c'est là où je dirais, par rapport à ces résolutions que l'on prend, et par rapport à sa vie quotidienne, ce n'est pas si important que ça, ce que l'on veut soi-même. Ce qui est plus important, c'est dans quelle mesure est-ce que l'on implique Dieu dans sa vie et dans quelle mesure on le laisse agir dans notre vie. Et c'est ça qui va faire une grande différence après quelques années. Ça peut être directement ou ça peut être après quelques années où il y aura un changement qui va être massif et un changement qui se fera en douceur et qui se fera de manière irréversible et pour notre plus grande joie. Donc maintenant, par rapport à cette nouvelle année, j'aimerais ouvrir un temps de partage, prière et partage. Donc si vous avez envie de prier ou de partager quelque chose, dirigez donc vers cette nouvelle année, faites-moi signe et puis peux vous passer le microphone.
J'ai une petite anecdote à vous partager. Je donnais les leçons de religion aux enfants de l'école de l'église protestante et nous avions un week-end à Monterey et nous avions un rallye de nuit. Et là, bon, comme d'habitude, vous connaissez le topo. On y va, et les enfants. Et là, j'avais une fille qui était avec moi, qui, dans les leçons, était assez bougeonne. Elle prenait la première place et tout. Et lorsque nous avons commencé le rallye, tout d'un coup, comme il faisait nuit, bon, c'était moi qui avais une lampe de poche, elle s'est mise à avoir peur et elle me disait, alors, prends-moi par la main. Et effectivement, tout le long du rallye, je l'avais avec moi, allée la main dans la main. Et elle était tranquille, elle était bien. Donc pour nous, c'est la même chose. Nous avons le papa, nous lui prenons la main et nous pouvons continuer dans cette année qui vient à être tranquille.
je suis vraiment poussée par aussi un témoignage. Et je crois que tout le monde sait que j'ai perdu mon mari. Il était malade, c'est vrai, mais ça faisait 54 ans qu'on était mariés et c'était le seul homme que j'ai aimé dans ma vie. Et ça faisait très mal. Et je pense que j'ai touché le fond. J'étais désespérée. Mais pendant tout ce temps, même quand Roger était par terre, il y avait une pensée. Dieu ne se trompe jamais. Et ce que je dis ici, c'est vraiment pour la gloire de Jésus. Et ce qui m'arrive, je suis en plein déménagement parce qu'il y a une surélévation dans la maison que j'habite. Enfin, j'ai habité dans ma maison. Il y a 2 ans, j'ai déménagé dans un plus petit appartement parce que j'étais trop malade. Il est décédé et j'ai dû laisser beaucoup, beaucoup de choses derrière moi parce que je n'avais pas de place. Et maintenant, je déménage ce vendredi, et je dois laisser encore beaucoup de choses parce que c'est un petit appartement. Et je ne peux pas vous expliquer, c'est vraiment Jésus qui me dépouille pour me remplir d'une manière incroyable. Et je tremble d'être devant vous et de devoir vous dire ou de vouloir vous dire, et je meurs, moi Marie-Thérèse, pour que Jésus vive en moi. Ça se fait vraiment, vraiment maintenant, c'est cela qui se fait. Et je suis une telle joie dans mon cœur d'appartenir à Jésus. Je vais avoir 80 ans et je me dis, mais j'ai encore peut-être 2, 3, 4 ans à vivre, peut-être 5, mais je vais monter encore pour vivre dans le 4e étage, et j'étais au 2e étage, et avant j'étais au rez-de-chaussée, et je suis tellement près de Jésus que je me dis, mais merci Seigneur que j'ai 80 ans, parce que bientôt je te vois, et ma joie, mais immense, c'est de le voir, mais dans peu de temps. Peut-être il va venir avant, mais peu importe. C'est un passage, si je meurs, je me réjouis. Je me réjouis de sortir de ce qui est mortel pour enfin être ce qui est immortel en attendant d'avoir un nouveau corps. Et il m'est arrivé quelque chose après j'arrête. Il y a quelques semaines, et j'ai dû aller en France et faire quelque chose dans ma banque. Et puis j'étais poussée à aller. Je ne pouvais pas dire. Le cimetière, c'était là où Roger était. Et puis là, je n'ai pas été pendant des mois. Et je me suis dit, mais je veux aller pour au moins voir comment est là. Maintenant, je peux dire la tombe de Roger, si c'est encore un peu prévalable. Et j'ai été. Et j'ai sangloté, mais j'ai vu que tout était gelé. Et puis, avec mes mains, je n'avais pas de gants, je n'avais rien. J'ai arraché tout ça. Et j'ai sangloté sans arrêt. Et le lendemain, je suis allée acheter un sécateur, je suis allée acheter des outils, je suis allée acheter des branches. Et j'avais des boules à la maison, je voulais faire quelque chose de joli quand même sur là où était la dépouille de Roger, parce qu'il va quand même ressusciter de là. Et j'ai été remplie d'une joie qui n'était pas naturelle. J'étais 2 heures là-bas, bien sûr, j'avais plusieurs couches de gants, Et j'avais une telle joie. Avec, j'ai reçu de Jésus cette certitude que Roger était auprès de lui. Et ça, et voilà, je vous partage à vous. Je n'ai plus pleuré depuis parce que la certitude, la joie que Roger est auprès de lui, et voilà, et c'est surnaturel. C'est, il y a, dans un psaume, il y a qu'on reçoit la force d'un buffle. Et c'est ça qui se passe actuellement pour mon déménagement. J'ai reçu la force d'un buffle de Jésus. Voilà. C'est voilà. C'est tout.
Voilà, et je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui auraient de quoi partager, mais le temps avance et nous voulons passer au repas. Mais avant, il y aura quand même le chant 591. Après ce beau chant, ces belles paroles, nous voulons passer au repas. Je n'aime pas tellement dire la scène, je préfère un repas, repas royal, puisque c'est quand même notre roi qui nous invite. Voilà pour l'institution. Je prendrai dans Matthieu. Matthieu 26, versets 26 et suivants. Et comme ils mangeaient, Jésus ayant pris le pain, ayant béni, le rompit et le donna aux disciples et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant pris la coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour plusieurs en rémission des péchés. Mais je vous dis que désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Il est dit « avec vous ». Donc, il nous attend. Et ainsi, avec ce mémorial, nous allons nous rendre petit à petit vers la cité céleste, où nous allons pouvoir boire et manger avec lui. Voilà, alors pour le vin, au milieu, il y a, comme vous le savez déjà, le jus de raisin dans les petits gobelets roses. Et ceux qui veulent ensuite avoir la coupe, ils font signe. Et nous aimerions avoir peut-être encore deux personnes qui viennent nous aider.
Nous vous proposons de clore ce temps de repas par la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Et voilà, en reconnaissance, nous allons chanter le 572 tout en mettant, en remplissant les petites pochettes noires. Oui, nous allons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné, que nous pouvons remettre en partie. Remercier pour cette ancienne année et remercier pour cette nouvelle année qui, plein d'amour, qu'il nous donne plein d'amour et que nous puissions cet amour le distribuer aussi autour de nous. Alors, bonne année à tous.
Tu avais prévu faire les annonces, Michel ? Il y en a là. Bon, ben. Ça vient ? Je pensais qu'il n'y avait pas... Je pensais que les gens qui préparent ça étaient en vacances, puis qu'il n'y aurait pas. Puis voilà, apparemment, oui, voilà. OK. Voilà. Ah, l'action de Noël, oui. Alors, il y a des bulletins de versement. Ils sont où ? Ils sont sur une table ? Sur le tablard à la sortie, d'accord. Voilà, un culte pour Dieu, voilà. Alors, les ateliers bibliques, hein, ça recommence. C'est le mardi 9, hein ? Non, oui, 12 mardis en soirée, mais ça commence le mardi 9, donc mardi dans 10 jours, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il y en a ? La suite, là, vous avez le... Tu as la conférence de Jean Hus ? OK. Ah, Sassbaden du... Voilà, ça c'est le camp de ski, donc on a déjà eu des nouvelles de la neige. Ça se fait. Je profite pour ajouter les salutations de Claude Bécher, qui est qui a des petites vacances, mais qui est en pensée avec nous tous. Non, je ne sais pas si là, parce qu'il y a la conférence sur Jean Hus qui est au CEPOM le mercredi 24. C'est pas tout de suite, mais il y a deux conférences qui sont prévues. Celle en janvier avec le pasteur Joseph Benesch. Et puis en mars, il y aura avec Claude Bécher. C'est un petit peu dans la foulée de la réforme. Et puis, ça va être des conférences très intéressantes sur les interpellations pour aujourd'hui. Voilà. Dimanche 7 janvier, repas canadien, mais pas aujourd'hui. Voilà, 7 janvier, c'est bien. Alors, il me semble qu'on est le 31. Ou c'est moi qui me trompe? Non? D'accord, ok, c'est bien ça. Donc, il est de... Voilà. Je pense que... Voilà. Merci. Ok. Voilà. Je vous propose de vous lever pour la bénédiction que je vous propose, qui... est écrite dans le livre d'Ésaïe. C'est une bénédiction pour le serviteur qui préfigure quelque part le Christ, mais qui aussi s'applique à nous tous qui sommes des témoins de Jésus-Christ. Il m'a dit, « Cela ne suffira pas que tu sois à mon service pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations. » pour que mon salut s'étende jusqu'au bout du monde. Et c'est aussi notre mission d'être lumière du monde. Soyez bénis pour toute l'année qui vient et bonne journée.
Encore juste une toute petite chose, vous pouvez vous asseoir. Juste avant Noël, donc nous avons pu faire 4 fois le stand dans les rues basses. Nous avons pu donner des calendriers, des bibles et plein d'autres choses. Il nous reste quelques calendriers, une 80 à peu près calendriers, qu'on n'a pas pu distribuer. Il y en a une partie qui est là sur la table, c'est des calendriers comme ça. Et on voit très bien sur ce calendrier qu'on est à quelques centimètres de 2018. Donc trésor caché, c'est un verset biblique. Vous me direz, oui, mais on a déjà notre calendrier, c'est possible. Mais ce que vous pouvez faire, c'est prendre des calendriers et donner à votre patron, donner à votre voisin, à votre voisine, donner à un ami, etc. Vous pouvez vous servir de ces calendriers qui sont sur la table. Deuxième chose, je ne connais pas tout le monde ici. Je ne sais pas si tout le monde ce soir peut être avec des amis pour cette veillée et cette nouvelle année. Ce qu'on s'est proposé avec Chantal, ma femme, c'est que s'il y a des personnes qui ce soir sont seuls, vont passer le réveillon seuls dans leur appartement, on les invite pour venir chez nous. Vous n'avez qu'à venir simplement vers moi ou vers ma femme pour qu'on puisse vous donner l'adresse où on habite et savoir combien de personnes seraient intéressées de venir chez nous pour un petit repas.